problèmes de voix, moi aussi, ben oui, c'est la saison, écoutez. On est un petit peu enroué en ce moment, donc Sophie, bonjour.
Bonjour René, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver régulièrement sur cette antenne pour parler littérature. Alors, ben, écoutez, je vais vous donner la parole tout de suite. Vous allez nous présenter votre auteur et parler de l'ouvrage en question.
Mais oui, alors nous recevons aujourd'hui Philippe Patchelet. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous, parce que vous êtes un peu loin quand même.
Oui, qui vous remercie.
Je vous en prie. On va peut-être, avant de parler précisément de ce livre, alors vous avez été assez prolixe en littérature, puisque vous avez écrit quand même pas mal de livres, notamment en politique, mais on y reviendra après, que je n'ai pas lu, parce que je ne peux pas lire tout de votre bibliographie, c'est quand même énorme. Mais voilà, une chose qui m'a interpellée, c'est que vous avez une vie extrêmement diverse, variée, éclectique. Alors racontez-nous un peu, présentez-vous, et puis racontez-nous un peu votre parcours de vie, ça nous permettra peut-être de mieux comprendre vos écrits.
Voilà, ben c'est ce qui m'a permis d'écrire beaucoup de livres, enfin beaucoup de quinzaines, mais un peu dans des domaines variés. Ben, j'ai eu une enfance très heureuse, des parents adorables, j'ai fait du bateau, je connais bien Toulon d'ailleurs. Et puis, passionné par les chevaux, j'ai commencé à monter à cheval à 9 ans, ça a un peu dirigé ma vie aussi. J'ai voulu être jockey, mais là, mes parents n'ont pas marché, parce que chez nous, il fallait faire des études. J'avais vraiment envie d'être jockey et de rentrer à l'école des jockeys à 13 ans. Et puis, une cliente de ma mère qui était chirurgien dentiste lui a dit « Oh là là, c'est une catastrophe, les vieux messieurs profitent des petits garçons. » Je ne pouvais rien trouver ça. Et du coup, ma mère a dit « Bon, bah, c'est terminé, l'école de jockey, c'était fini. » Alors, j'ai repris les études, j'étais un grand cours d'ailleurs. Enfin, je m'intéressais aux maths et un peu au français, mais enfin, j'étais quand même un grand cours de scolarité. Particulière et j'avais envie de travailler tôt et j'ai démarré à 20 ans une entreprise de transport hippique qui a bien marché. Bonjour. Et puis voilà, et du coup, ça, à 25 ans, ben, j'avais un peu fait fortune et j'ai acheté une vedette de Cherbourg. Je sais pas si ça vous parle, les vedettes de Cherbourg, les Israéliens.
Cherbourg, oui, la vedette, oui.
Ben, les vedettes de Cherbourg, c'était les Israéliens qui les avaient achetées et puis. On a mis un embargo, la France a mis un embargo pour ne pas les livrer, ils sont venus les voler à Cherbourg.
Ça, ah d'accord, non,
ça ne parle pas ces histoires. Ben, j'avais acheté une vedette de Cherbourg dans l'arsenal de Toulon, qui était, et que j'ai transformé tout en fait en yacht, etc. Et puis là-dessus, ben, la douane m'a fait quelques ennuis, parce que donc j'ai décidé de m'exiler, je suis parti vivre à Palma de Mallorca. Enfin voilà, j'avais 29 ans. Voilà un peu le parcours de vie au départ, puis bon, après ça a continué. Entre-temps, en 75, j'avais essayé d'enflouer l'épave, je me suis noyé.
Allons, bon.
J'ai eu une panne de détendeur, alors je suis resté une heure et demie un peu mort. Et puis j'avais des bons secouristes à bord qui avaient le temps de me repêcher parce que j'étais resté comme une gueuse. Enfin bon,
d'accord.
On m'a remis en route et puis au bout de 3-4 mois, bah, la forme revenait, je suis remonté à cheval, enfin voilà. Enfin voilà, donc si vous voulez, j'ai beaucoup d'expérience qui me permet d'écrire.
Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans l'écriture, alors dites-nous.
Alors dans l'écriture, bah, c'est enfin, un parcours de vie, il faudra que vous lisiez ma biographie, il y a trois tomes.
J'ai lu un peu quand même, je me suis un peu renseigné.
Il y a trois tomes,
c'est... Ah, oui.
Je ne suis pas au bout.
Alors je ne les ai pas lus, effectivement, voilà. Mais on voit que vous avez visité énormément de pays, vous avez essayé plein de métiers finalement.
Oui, j'ai changé souvent de métier.
Entre le cheval, la voile.
Oui, bah, j'ai été capitaine dans la marine marchande. Enfin bon, j'ai essayé un peu tout. Je travaillais en mer du Nord, en Norvège. Ma tante disait que j'étais un peu instable. Ça doit être un peu vrai.
C'était avant ou après votre problème de plongée?
C'était après la plongée,
d'accord,
en fait.
Ouais,
c'est quand je me suis exilé. Ben, j'ai vendu mon entreprise de transport à une société qui existe toujours, qui est la STH, une grosse boîte qui transporte des chevaux de course, vous voyez souvent les camions STH, Bavia. Et là, je suis devenu banquier. Alors, c'est vraiment un hasard. J'ai rencontré des Anglais qui m'ont trouvé que j'étais un type formidable, alors que je ne faisais rien. J'étais sur mon bateau, cherchant ce que j'allais devenir. Et il m'a dit, il y a une grande banque Palma, parce que
Palma,
c'est très spécial, c'est une destination touristique pas chère, et il y a beaucoup de filles, d'ailleurs, étrangères, qui viennent passer les vacances 8 jours, 15 jours, là, c'est, si vous voulez, c'est des charters, c'est très curieux, toutes les Scandinaves, etc. Par contre, Ibiza, c'est, ça attire beaucoup, parce que c'est un peu la fiesta, les boîtes de nuit et compagnie. Qu'à Palma. Donc j'avais eu l'idée de les emmener le matin et de les ramener le soir. Parce que comme ça, ils n'avaient pas les frais d'hôtel parce qu'à Palma, ils avaient... Et puis j'étais parti pour faire ce truc-là et tout le monde à Palma parlait de ça en disant ça va être formidable, c'est une idée géniale. Et puis c'est le gouvernement espagnol qui, à la dernière minute, m'a empêché de le faire parce que dans la loi espagnole, il faut que les bateaux qui transportent des passagers soient construits par un chantier espagnol. Et chantier espagnol, il n'y en a jamais un qui a construit un hydrofoil. C'est les Italiens, les Russes qui faisaient, et à la fin j'avais Boeing qui m'en avait proposé un formidable. Donc ça a capoté, enfin c'est comme ça que j'ai quitté et que je suis revenu en France après. Là, voilà.
Et votre épisode londonien, ça c'était...
Alors ça c'est plus récent.
Faut vous suivre. Hein.
Oui, c'est que j'ai beaucoup de rebondissements, c'est que mes affaires se cassent la figure, je suis fauché, donc il faut que je refasse quelque chose. Mais c'est comme ça que je suis devenu journaliste. J'ai arrêté ma carrière de cavalier de jumping, parce que ça, on dépense beaucoup d'argent, on ne gagne pas beaucoup. Donc, et au bout d'un moment, j'étais un peu ruiné, j'ai dit, il faut que je fasse autre chose. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Et puis après, je suis devenu dans l'informatique. Ça, c'est dans le tome 4.
Bon, on va inciter les auditeurs à lire. Donc, on va
le tome 1.
Là, on est au tome 3, là, c'est ça.
Là, on est déjà, on arrive au tome 3.
L'enfant des dieux, c'est ça?
Voilà. Non, ça, l'enfant chéri des dieux, c'est, quand vous lirez le tome 1, c'est parce que j'ai un ami qui trouvait que j'avais beaucoup de chance, qu'il avait raison d'ailleurs, et c'est lui toujours qui disait, t'es vraiment un enfant chéri des dieux, c'est pour ça que j'ai appelé. Et lui est mort dans un accident assez redoutable, parce qu'on faisait de l'avion tous les jours en Savoie pendant les vacances. Chez mes parents et il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, je pourrais faire un cadeau à tes parents. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va faire une photo aérienne de la propriété, ça sera sympa et tout. Et mon père qui avait été aviateur pendant la guerre, qui s'inquiétait toujours pour nous, là il n'était pas du tout inquiet. Et mon frère aîné est arrivé et il m'a dit je viendrai bien avec vous, même si vous voulez je fais des photos. Alors, il n'avait jamais fait d'avion. Je lui ai dit si tu veux, moi j'avais mon brevet de pilote amateur aussi. Il dit on t'emmène et on est arrivé le samedi, on n'est pas réservé. Du coup, on n'a pas eu d'avion de 3 places, il n'y avait qu'un avion de 2 places. Et il n'y avait pas d'avion d'ailleurs, c'est pas faux, c'est l'aéroclub, il n'y avait pas d'avion. Et c'est le type d'à côté, Cessna, le représentant Cessna à Albertville, on a été le voir, il a dit ben, j'ai mon avion, si vous voulez, je vous le loue. C'est un 2 places. Et ce type était un vrai couillon, j'entends intellectuellement, il ne sait pas que quand on va plus vite, on consomme plus. Et pour un pilote, c'est quand même embêtant. Un conducteur de voiture, c'est ça. Et donc, il nous a dit, vous avez 2h30 d'autonomie, et comme, si vous voulez, comment ça se passe dans l'aviation, on fait le plein chaque fois avant, et on refait le plein, et puis on met un carnet, et à la fin, on paye. Enfin, mais là, comme il était hors du club, il n'y avait pas de pompe, on s'est fié à ce qu'il a dit. Et mon frère, il y avait 2 places, je lui ai dit, je te laisse ma place, allez-y, je vous attends là. Ils sont écrasés dans le jardin de mes parents, en panne d'essence. Voilà, c'est cet ami qui était directeur de la Voix du Nord, enfin des ventes à la Voix du Nord.
D'accord.
Oui, journaliste aussi, en quelque sorte. Ouais. François Dur.
Alors, voilà. On va se refocaliser un peu sur la littérature, du coup. On parlera donc, alors vous avez écrit, c'est votre premier Katharzyna.
C'est absolument, alors voilà. Katharzyna, c'est l'histoire d'une dame qui est une histoire vraie, hein. C'est comme je le précise.
Oui, ce que vous dites, oui.
Que j'ai rencontré, mais j'ai rencontré évidemment, elle était âgée, et tout à fait par hasard, je venais pour lui acheter du foin,
des chevaux,
voilà. Et puis le fils, c'est le fils qui s'en occupait après, et puis avec cette femme, on a sympathisé comme ça, et elle avait un accent, et je lui ai posé la question, justement, elle me rappelait des Polonais, et je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, je suis polonaise, je viens de l'eau, qui maintenant dit livre, je ne sais pas si avait fait un truc, il avait fait un cahier où il avait marqué toutes les dates et tous les lieux où il avait été interné. Il essayait de s'évader, l'histoire est absolument authentique. Et donc j'ai fait un roman de ça, mais en suivant son itinéraire. Donc, alors bon, après j'ai mis quelques histoires personnelles parce qu'il fallait bien agrémenter. Sinon, on dirait il s'évade, il saute un mur ou des barbelés, il se fait reprendre. Voilà.
Ben, c'est exactement l'impression que j'ai eue en fait. La lecture, hein, on sent que c'est plus un descriptif de suite d'événements.
Ah oui, mais il passe son temps à s'évader, à se faire reprendre. Se fait tabasser. Et plus il se fait reprendre, plus on le met dans des camps difficiles et plus on. Et à la fin, jusqu'à là, c'est le truc, c'est pour les exterminer, on en a marre. Et c'est ce qu'on appelle ça un camp de terroriste, soi-disant. Et là, il va encore avoir des tas d'opportunités. Enfin, ce que je raconte dans les oui, pour aller avoir une détention un peu meilleure parce qu'il crevait de faim, etc. Il va finir à l'eau et là il va rencontrer vraiment cette Polonaise en s'évadant. C'est quand même incroyable.
C'est assez incroyable. Mais...
incroyable. Et la fin de la guerre, si vous voulez, il va faire toute sa guerre en fait en tant que détenu. Et à la fin de la guerre, il a un ticket pour rentrer. Mais il n'est pas question qu'il abandonne sa petite
amie. C'est ça, et elle n'a pas pu.
Elle ne peut pas, puisque maintenant elle est sous les Soviétiques, qui ne laissent sortir personne. Alors là, on ne dira pas comment il l'a fait sortir, parce que c'est la surprise. Mais c'est une histoire authentique.
Mais c'est étonnant, parce qu'en fait, son parcours est émaillé de rencontres avec des femmes, en fait.
Oui.
C'est amusant.
Absolument. C'est à la gloire des femmes.
Oui.
Vous êtes formidable.